Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de nous écouter partout où vous êtes en République démocratique du Congo et merci à tous ceux qui nous écoutent sur www.radiookapi.net. Pourquoi certaines personnes deviennent inaccessibles quand elles ont le pouvoir, quand elles ont une parcelle de pouvoir? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Le sujet vous intéresse? Appelez déjà au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Vous pouvez aussi poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service. Mimi Kindou à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation de cette émission que coordonne Marcel Ngoumbou-Mbalakeba. Jody Daniel au micro sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Je dis à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, à nos staffs, à ceux qui nous sont chers, à tout le monde, il ne faut pas paniquer, mais il faut absolument écouter ce qu'on vous demande et protégez-vous, protégez les autres, ne prenez pas de risques. Et si vous avez des doutes sur quelque chose, n'hésitez pas à demander à ceux qui peuvent vous aider. Je dis aussi que la quarantaine n'est pas une menace. La quarantaine est une mesure de prévention. Ça permet d'identifier les contacts et donc il faut pas avoir peur de dire « j'ai contacté quelqu'un ». Parce que parfois les gens, ils ont peur d'être stigmatisés. Ils ont peur qu'on les identifie comme malades. La quarantaine nous permet d'éviter la propagation. Si les gens sortent de la quarantaine, ça veut dire qu'ils n'ont pas la maladie. S'ils avaient la maladie, ils sortent pas. Ils sont mis dans un endroit où ils sont isolés. Donc, il faut pas avoir peur de ça. Il faut pas cacher qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a été identifié comme malade. Au contraire, il faut le faire. Il faut faire attention parce que c'est ça le message. Le message, on va gagner. Regardez les pays de l'Asie. C'est le premier qui ont été affectés. Qu'est-ce qui leur a permis de maîtriser la maladie? On le voit dans toute l'Asie, c'est quelques cas qui restent parce qu'ils ont respecté les instructions qui ont été données par leur pays. Donc je vous demande, c'est le message que j'envoie, nous sommes ensemble, c'est une maladie qui va affecter tout le monde si on ne fait pas attention et si on ne prend pas les précautions pour réduire la propagation du virus.
Ceci est un message de Madame Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO.
Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va certainement vous intéresser. Pourquoi certaines personnes deviennent inaccessibles quand elles ont le pouvoir? En RDC, le constat a été fait par plus d'une personne. Certaines personnes changent carrément d'attitude et de comportement quand elles ont une parcelle de pouvoir ou quand elles deviennent chefs. Le PDG, le DG, le patron, le boss, l'honorable ministre Excellence, il ne décroche plus son téléphone, il ne répond même plus aux SMS. Il donne l'impression d'être toujours trop occupé. Certains deviennent carrément inaccessibles et pourtant, ils occupent des fonctions publiques et sont au service de la population. Alors, qu'est-ce qui explique ces comportements constatés chez plusieurs personnalités publiques congolaises? Alors, quelle est la solution? On en parle avec vous aujourd'hui dans Okapi Service. Nous avons en ligne professeur Gauthier Moussengue, il est sociologue. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, professeur, dites-nous, en tant que sociologue, qu'est-ce qui explique ces comportements constatés chez certaines personnes quand elles ont une parcelle de pouvoir et changent d'attitude et deviennent carrément inaccessibles?
Oui, je peux expliquer ça par la notion traditionnelle des chefs, la conception traditionnelle des chefs chez nous. Et cela, je vais opposer ça à la conception démocratique des chefs. Donc, chez nous, nous avons, dans notre tradition, dans notre culture, le chef est essentiellement protecteur. Donc, vis-à-vis de sa base, vis-à-vis de la population, vis-à-vis de ses citoyens, il est essentiellement protecteur, donc il protège la population. Et il doit tout faire pour sécuriser la population. Mais en retour, il attend tout de la population. Donc, il est assis, on lui apporte à manger, on vient le saluer, on vient le voir. C'est vous qui devez tout lui amener, ainsi de suite. Le chef est sacré. Comme le chef est sacré, ce qui fait que les autres ici maintenant, quand ils savent qu'ils deviennent chef, alors il se fait sacré et il n'a pas de compte à rendre aux citoyens. Ce sont les citoyens qui lui doivent, parce que le chef est inviolable dans notre conception traditionnelle. On ne peut pas juger les chefs, on ne peut pas critiquer les chefs. C'est pourquoi vous voyez Mobutu n'acceptait pas toutes les critiques là. On dit mais non, mais moi je suis chef, je suis léopard. On ne peut pas me critiquer, on peut pas juger les chefs. On ne peut pas juger les chefs. Il est sacré, il est comme Dieu. Alors c'est comme les autres aussi. Ils se sentent sacrés, ils se sentent petits dieux. Maintenant vous devez les vénérer. Il ne peut pas paraître n'importe quand, il doit se cacher. Alors maintenant il a changé de classe, il doit collaborer avec les gens de sa classe, les gens de sa catégorie sociale. Contrairement à la conception démocratique du chef, où il se sent simple coordonnateur, parce que c'est la base, c'est le peuple qui est souverain. Alors, le chef se sent, il est coordonnateur des activités pour servir la population, pour servir sa base. Et la base attend les services du chef. Alors, c'est ce service du chef maintenant qui le rend grand, qui fait de lui chef. Quand le chef rend service, cette reconnaissance des services du chef fait de lui grand. Les gens maintenant l'admirent, les gens l'applaudissent,
oui,
parce qu'il a rendu service à ses citoyens, à sa base. Alors, maintenant, il faut que nos chefs actuels, parce que nous sommes en démocratie, ils doivent sortir de la conception traditionnelle du chef-là. C'est le conseil que je donne. Ils doivent sortir de cette conception traditionnelle du chef, où le chef n'attend tout que de la base. Maintenant, ils doivent rendre, parce que nous parlons de la démocratie. Notre pays s'appelle République démocratique du Congo.
Oui.
Donc, le chef doit être démocratique. Nous devons appliquer maintenant la notion, la conception démocratique du chef. Ça signifie que c'est un serviteur. Le chef sert sa base, sert sa population, sert ses citoyens. Et les citoyens, maintenant, par reconnaissance du service du chef,
lui rendent l'honneur, oui.
Honneur. L'applaudissent. Sont contents de lui. Voilà, c'est ça les conseils que je donne à nos chefs. Ils doivent savoir que maintenant, le pouvoir est démocratique. Ça signifie que c'est le peuple qui est souverain. Le pouvoir vient de la base. Donc, il a des comptes à... C'est lui qui a le compte à rendre. Parce que il gère le bien de
public,
la base.
Oui.
Il a des comptes de bien public. Il doit rendre compte à la base. Il ne doit pas fuir sa base. Il ne doit pas seulement venir pendant les élections pour dire voilà, je viens chez vous, tout ça, tout ça. Là, il devient gentil. Quand on lui donne ce mandat-là, il devient chef, il change de numéro de téléphone. Il n'est plus accessible.
Professeur, certains disent que c'est pour éviter les dérangements. On est dans des réunions, on est occupé tout le temps, des appels familiaux, des amis, tout ça, des gens qui cherchent à avoir un peu d'argent et c'est embêtant.
On doit savoir gérer son temps. On doit savoir gérer son temps. Ça signifie qu'il y a un temps pour recevoir les gens, parce que vous êtes là au service des gens, de votre population. Il y a un temps pour signer les documents. Il y a un temps pour la famille. Il y a un temps pour ceci. C'est question de gérer le temps. Vous avez un temps pour recevoir les gens et vous recevez les gens. C'est vrai. Certaines personnes peuvent venir vous poser tout le problème du monde. Mais répondez-leur. Au lieu de fuir, ne les fuyez pas. Recevez-les. S'il vient vous demander l'argent et que vous n'en avez pas, dites-lui que maintenant, je n'en ai pas. Le jour où j'en aurai, je vais penser à toi. Et je prends ton nom, je prends ton numéro de téléphone, je vais t'appeler.
Donc, bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons Aline James de Lubumbashi et Nestor de Kananga. James, bonjour. James, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question par rapport à ce sujet?
Oui, en voulant de la vie Jody, je crois que les problèmes se posent à plusieurs niveaux. Un, au niveau de la famille, des amis et connaissances, certains amis, membres de la famille et connaissances, parviennent même à croiser les bras, cessant de faire ce qu'ils faisaient avant, tout simplement parce que les grands frères, l'ami ou l'oncle est devenu tel ou tel. Croyant qu'avec lui et la parcelle de pouvoir qu'il vient de couper, on vivra même lorsqu'on ne travaille pas. De par cette mauvaise imagination, on va se mettre à l'appeler vaille-que-vaille pour qu'il leur vienne en aide, ce qui fera qu'au fur et à mesure, il va commencer à rejeter d'autres appels. De deux, au niveau de celui qu'on appelle le nouveau boss. Beaucoup d'entre eux arrivent même au niveau de s'en foudre de ceux qui ont bâti campagne pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sabotent n'importe qui, même leurs propres parents. Ils prennent difficilement le coup de fil de leurs vieux parents alors qu'ils ont besoin d'assistance en temps réel. Et le troisième point, le dernier, au niveau du pouvoir. Pour finir, mon opinion, c'est le pouvoir public qui pose problème. Ce dernier de ceci, ce pouvoir est attribué à qui que ce soit. Même ceux qui n'ont pas un sens de responsabilité se tapent facilement une parcelle de pouvoir, tout simplement parce que son tel est à la tête. Ce qui fait que, n'ayant pas dorénavant une bonne manière, il accentue encore sa mauvaise façon d'être une fois au pouvoir. Je vous remercie.
Merci James. Nestor de Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à tous les nombreux auditeurs de la radio Capé.
Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour?
Merci pour le choix un peu du sujet, c'est un sujet très pertinent. Et ce comportement, nous le fustigeons tous, d'autant plus que ces gens-là qui ont du mal peut-être à accéder au pouvoir, ils battent campagne, ils disent aux gens, ils leur promettent, ils promettent un peu beaucoup le ciel et les étoiles aux gens, mais il faut déjà arriver au pouvoir. Ces gens-là fustigent un peu les autres ici. Cela, vraiment, je dirais que d'abord conseiller, le problème des conseillers. Ouais, certains chefs, ils sont entourés de mauvais conseillers qui leur disent non, il ne faut pas faire ça. Peut-être il a un frère, soit un ami de longtemps, qui veut un peu lui rendre visite. Les conseillers disent que non, vous voyez, le chef est occupé, il n'a pas le temps de recevoir ses derniers temps, voilà. Il est occupé par beaucoup de tâches. Et aussi, c'est la responsabilité des hommes de Dieu, les pasteurs, le prêtre et d'autres. Ils ont aussi ce devoir-là, dans leur prédication, de prêcher surtout la charité, la communion, l'amour, la reconnaissance aussi. Mais nous observons ces derniers temps que les hommes de Dieu, le pasteur, continuent toujours à prêcher. Oh, ils se limitent seulement à prêcher la bénédiction, la conversion. Oh, donnez, vous allez recevoir autant. Parce que ces gens-là prient dans des églises.
D'accord, ces gens-là prient dans les églises. Et quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change?
Oui, pour que ça change, d'abord, qu'il y ait un peu la formation civique. Que les gens là puissent un peu avoir l'idée de considérer les autres pour dire que non, le pouvoir c'est comme un marché, ça va prendre fin, qu'ils puissent un peu retourner au bon sens pour un peu communier avec les autres, pour se souvenir. devenir devient fait quand les autres ont des pensées pour qu'ils soient. Parce que si vous allez un peu dire que parce que je suis chef, je dois faire tout ceci, je dois faire cela, il y aura un temps où vous n'aurez pas encore ces pouvoirs-là.
Merci,
et
Nestor.
Ça va un peu vous coûter les yeux de la tête. Merci un peu.
Merci à vous. André, vous êtes à Dungu, bonjour. André, bonjour.
Tous les auditeurs, bonjour.
Quelle est votre préoccupation, André?
Ouais, j'ai juste une petite question.
Oui.
Monsieur l'invité, est-ce qu'il y a-t-il un cours de changement de comportement ou un cours de mensonges qu'on enseigne quand quelqu'un devient un politicien, un mandataire ou un député, un officier, etc. Ouais, merci.
Professeur Gauthier Moussengue, vous avez la parole.
Je rigole l'intervention du dernier
auditeur. Oui, oui. Et est-ce qu'il existe un cours de changement de comportement?
Bon, il n'a pas tort, parce que dans les milieux politiques surtout, les chefs mentent facilement. Donc pourvu qu'ils donnent une réponse qui satisfait à son public. Pourtant, c'est du mensonge. Hein, et il donne la réponse, il dit ça. Mais c'est par après que le public va comprendre que il nous a menti. C'est ça justement. Mais il est vrai que en sciences politiques, les politologues vous diront que les chefs peuvent mentir pour sécuriser son public. Le chef peut arriver à mentir pour sécuriser son public. Mais on ne doit pas le faire en désordre. On ne doit pas. On peut mentir peut-être pour la quiétude sociale.
Oui, professeur Gauthier, il y a un auditeur nous dit que si certaines autorités deviennent inaccessibles, c'est tout simplement un problème d'éducation ou c'est un signe de pauvreté, parce que quelqu'un qui est dans la noblesse, qui a grandi dans la noblesse, même si elle est élevée, elle restera toujours humble et accessible.
Bon, c'est un problème de discipline. Bon, lui peut parler d'éducation, mais moi, je parle de discipline. Parce que quand on est chef pour son public, et on doit être proche de son public, on doit entendre son public, on doit créer le temps pour recevoir son public. Mais il ne faut pas qu'il y ait un désordre. Faut pas que on ne doit pas à tout le temps. Mais c'est question de gérer son temps, de bien répartir le temps pour gérer son public. C'est pourquoi je lis ça à la discipline. À la discipline. Le public vient, vous le recevez, c'est vous qui gérez votre public. Ce n'est pas le public qui doit vous gérer, c'est vous qui gérez le public. Alors, vous les orientez pour leur bien-être. Pour le développement du milieu.
Mais professeur, dans certains cabinets, vous allez, il y a des jours d'audience. On vous dit, par exemple, le PDG, le patron, ou le ministre reçoit mardi et jeudi de telle heure à telle heure. Vous venez même ces jours-là, mais on vous fait poireauter jusqu'au soir et vous rentrez sans être reçu, sans une explication valable.
Justement, c'est ça. C'est un problème de discipline. Souvent, les collaborateurs du chef se font encore trop chef. Ils se font très importants vis-à-vis des visiteurs. Parce qu'ils ne comprennent pas que ce pouvoir qu'il a vient de son public. Alors, le collaborateur se fait important, il trompe. Des fois, tu as des conflits, tu as des problèmes personnels avec lui, ou encore tu n'apparais pas bien, parce que chez nous, on juge aussi les gens par l'apparence, tu étais bien habillé ou pas, tout ça. Alors, lui, de son humeur, de ses sentiments, Il refuse poliment, il te dit non, le chef n'est pas là, le chef ne reçoit pas, il donne un prétexte. Alors que le chef est disponible. Donc, des fois, ce sont des collaborateurs, le protocole qui pose problème, parce que on prend des fois des gens qui ne sont pas formés. Mmh. On les ramasse seulement parce qu'il est mon frère, il est mon cousin, on voit plus des raisons de sécurité, parce qu'il va me sécuriser, il ne va pas me trahir, on le prend comme ça. Alors qu'il faut le former, il faut lui dire comment recevoir quelqu'un, comment dire à quelqu'un, comment répondre à quelqu'un, même s'il a mal parlé, etc., tout ça. Non, alors, ces gens-là n'ont pas de discipline. Ils se comportent d'une manière
impropre vis-à-vis du public, vis-à-vis des visiteurs.
Des visiteurs, oui. Bien, professeur, je reviens à vous tout à l'heure. Nous parlons aujourd'hui de pourquoi certaines personnes deviennent inaccessibles quand elles ont le pouvoir. Nous allons faire un tour à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, où notre confrère Paul-Richard Malengela a élaboré, a fait un reportage par rapport à ces phénomènes. Suivez.
Radio Okapi.
À Mbandaka,
Okapi,
sur 103 FM.
Okapi.
À Mbandaka, certains habitants cherchent souvent à rencontrer leurs amis élevés en dignité ou en fonction. D'autres accourent souvent visiter des autorités politico-administratives, des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires, des serviteurs de Dieu, etc. chaque fois que ces derniers viennent en séjour dans la ville, soit encore à leur lieu de service. Et parmi les visiteurs, ce sont des courtisans, soit des sympathisants, qui affluent à longueur de journée devant la résidence pour les encenser, mais aussi des cousins et frères du village, des anciens condisciples, amis d'enfance et j'en passe. Malheureusement, tous ne sont pas les bienvenus. Ils constatent que telle autorité n'est pas accessible. Témoignage.
Oui, je le confirme. L'indifférence, c'est ce qui tue les relations entre amis. Hier, on était des grands amis. Quand tu deviens une autorité, bon, on se croit au sommet, puis on néglige les relations qu'on avait avec les amis. Quand on veut vous voir, bon, vous êtes présent dans votre bureau, vous dites non, dites-lui, je ne suis pas présent. C'est comme si on vient pour vous arracher votre fortune. C'est pas normal. Les relations, c'est ça qui est le plus important. Les relations produisent l'argent, mais ici nous confondons tout.
Effectivement, nous le vivons. Et si quelqu'un devient une autorité, ce n'est pas facile de le voir, de le contacter, même dans son téléphone. Parfois ça ne passe pas, parfois il rejette des appels. Il échange aussi des cibles.
Malgré la bonne foi de l'autorité sollicitée, disposée pourtant à recevoir la visite, la barrière provient plutôt de son entourage. Ce vendeur ambulant de vêtements usagés en Mbandaka estime que cela fait suite à certains abus qui seraient même dangereux pour ses autorités.
Mukunzakoza na motema poli me bato bazo frequenté nyonso tout baza bien teint. Ils ont ba coup d'état, ils ont ba poison, ils ont ba mitungi si pona ko tungisa mokonzi. Ko senga mbongo ko lela vraiment pona mokonzi akoko résoudre bango ba problème mais il faut mokonzi quand même azara na repo mais sengeli bato moko bazala na pona kosala kwa mwa barrière pona mokonzi bazala azamoto azwa mwa kimia.
Quant à certaines autorités, les anciennes relations restent encore utiles. Elles peuvent aussi contribuer à bien accomplir les nouvelles fonctions, a indiqué le juge de division provinciale intérimaire de la santé Équateur. Pour le docteur Richard Jogolo, l'inaccessibilité dont il est question n'est qu'apparente, puisque les nouvelles charges absorbent tout le temps libre que la personne pourrait avoir auparavant. Monsieur Jogolo.
Je pense que de part et d'autre, cela peut s'expliquer. C'est lui lorsqu'il est promis ou bien il devient responsable, il a des obligations de service auxquelles il doit répondre. Je donne un exemple, il y a une série de réunions, il y a une série d'urgences de service. Il peut arriver que ses anciens amis, anciens collègues puissent l'appeler au moment où la personne est en train de tenir une réunion ou d'assister à une réunion ou à une autre activité de service et que la personne promise trouve que s'il prend le téléphone en ce moment-là, il ne pourra pas être dans des conditions, il ne pourra pas être à l'aise pour partager avec son ancien ami, mais avec son collègue. Donc là, il peut gérer l'information et rappeler la personne une fois qu'il a terminé l'activité ou il est dans un environnement qui lui permet maintenant de parler avec son ami.
Ce n'est qu'un prétexte pour dire que non, je veux te rappeler, mais sans plus rappeler.
Ça peut arriver qu'il a promis à quelqu'un de rappeler qu'il ne rappelle plus. Soit il a oublié, soit il a été dans d'autres urgences. Mais il serait quand même intéressant, lorsqu'on est libre, de pouvoir parcourir son répertoire de messages et voir telle ou telle autre personne m'avait appelé, de pouvoir l'appeler, parler. Ça tranquillise et puis ça donne encore un autre niveau de confiance. Mais d'autre part, les amis avec qui on a été avant, les collègues et les amis d'enfance, il est par exemple ministre, il devient par exemple président de la République ou directeur dans une entreprise quelconque. Il faudrait plus aussi chercher à les traiter comme vous étiez avant. Même lorsqu'il est devant les gens, ou bien lorsque vous êtes parmi vous là, vous dites non, ok, je vais l'appeler et vous allez voir que c'est vraiment mon ami et tu es tout ça, on partage avec lui, on s'embrasse, on fait n'importe quoi. Non, quand quelqu'un il est promis, je pense qu'il faut le prendre à ce niveau-là et c'est aussi de le respecter. Savoir aussi qu'il a un autre train de vie, il a de nouvelles relations liées au service, liées à son environnement, liées à son statut. Donc il ne faudrait pas vraiment que vous puissiez le considérer comme vous l'avez vu avant. Ne pas l'appeler, ça ne serait pas aussi bon. Trop l'appeler, ce n'est pas aussi bon. Donc, il faut chercher à avoir les justes milieux pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que je ne sois pas une charge auprès de mon ami et que mon ami ne soit pas aussi une charge et cherche à m'éviter parce que je risque de devenir une charge pour la personne.
En définitive, certains Bandakens ont reconnu que celui qui devient autorité n'est plus le simple ami d'autrefois. Il faut donc le traiter avec égard dû à son rang. Il faut aussi que les personnes promues affichent de la gratitude envers ceux qui ont participé à leur élévation. Bandaka Paul Richard Malengela, Okapi Service.
Bien, merci Paul Richard Malengela pour ce reportage. Professeur Gauthier Moussengue, vous avez suivi le reportage. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'il faut pour que ces personnes deviennent accessibles? D'autres, on a suivi, ils sont souvent en réunion et c'est pas de leur faute, mais d'autres, ils deviennent carrément, ils se renferment. Et ne veulent pas communiquer avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion?
Bon, il y a eu de belles interventions, tenant compte des deux côtés, du côté du public et du côté du chef. C'est très bon. Le chef, en tout ça, c'est le chef qui doit savoir gérer son public. Le chef doit savoir, il ne doit pas être géré par le public, mais c'est lui qui gère son public. Il doit créer le temps pour son public. Parce que si vous êtes géré par le public, ça sera un désordre. Il n'y aura pas de discipline. Les gens viennent en désordre et vous ne saurez rien faire. Tout le monde vient poser tous les problèmes du monde et vous ne saurez rien faire. Donc, c'est pourquoi nous disons que le chef doit être toujours proche de son public. Quand nous parlons de public ici, ça c'est un concept purement sociologique qui signifie sa base. Donc, les gens qui adhèrent à lui, les gens, donc sa population. C'est pourquoi nous utilisons plus le mot, le concept public qui est purement sociologique. Donc, le chef doit être proche de son public, mais c'est lui qui doit gérer son public. Ce n'est pas le public qui doit le gérer. Donc, il doit savoir quand est-ce qu'il peut bien le recevoir, qu'est-ce qu'il peut faire de son public. Mais il doit éviter de couper le cordon ombilical avec son public. C'est ça, ce qui est très important.
Merci professeur Gauthier Moussengue, je rappelle que vous êtes sociologue. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations, à notre invitation et à la prochaine.
Ngoma ya Kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi. La radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Pourquoi certaines personnes deviennent inaccessibles quand elles ont le pouvoir? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Pour intervenir, appelez au 081-890-63-94. Merci à tous les internautes qui nous ont écrit. Poncien Takundi nous dit ceci. Takundi Maéché depuis Bukavu. Cette attitude et comportement qu'affichent certaines personnes parce que elles ont une parcelle de pouvoir est déplorable. Ce n'est que de l'orgueil et si... c'est parce qu'on a acquis une fonction quelconque qu'on ne peut plus recevoir les gens au téléphone ou par audience, même si cette réception aussi doit être réglementée. Nous ne pouvons que condamner ces genres d'astuces, des comportements et interpeller ces personnes pour qu'elles changent, parce qu'elles ont des fonctions non pas pour leurs intérêts égoïstes, mais plutôt pour l'avantage de tout le monde, pour l'avantage de tout le peuple. Voilà, c'est la réaction des Ponciens Maéché depuis Bukavu. Jean-Paul Tipama, bonjour.
Bonjour Jordi Kachama, bonjour tout le monde, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi.
Alors Jean-Paul Tipama, vous êtes expert dans le domaine du protocole. Si une autorité n'est plus, lorsqu'une personne n'avait pas encore une quelconque responsabilité, elle était ouverte, joignable, mais dès qu'elle elle a une parcelle de pouvoir, on ne peut plus la joindre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème personnel, de comportement personnel, ou c'est parce que ces personnes sont mal entourées, le protocole est mal organisé?
Non, je voudrais bien commencer par introduire mon intervention par cet adage qui dit « Si vous ne faites pas bon accueil au public, mais que ferez-vous de mieux ?» N'est-ce pas? Vous êtes chef, vous êtes dirigeant, pas pour vous-même, votre clan, et pas pour votre tribu, et non pas pour votre famille, mais c'est plutôt pour le public qui vous voit. C'est
un devoir et une obligation. Le visiteur ou le public a le devoir d'être reçu. Voilà ce qu'enseigne le usage du protocole. N'est-ce pas?
Oui.
Et si nous déplorons ce cas aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire, c'est parce que nos dirigeants ont tout ce qu'il faut pour malmener, pour nuire au public, pour nuire aux populations, au peuple sur lequel ou au nom duquel ils prétendent c'est maintenir au pouvoir. Voilà ce que moi je peux prendre comme résumé. Deuxièmement, il y a également un problème. Problème de notion du protocole. J'ai suivi tout le monde qui est intervenu. J'ai compris que parfois on s'échappe pour dire que non, c'est par rapport aux charges, ainsi de suite. Non, il n'y a pas matière à charge.
Jean-Paul Tupam, apparemment vous êtes à un endroit où il y a beaucoup de bruit.
Hein,
je vais vous demander de vous éloigner un tout petit peu, aller à un endroit beaucoup plus calme, on va vous rappeler dans quelques instants. D'accord. Le temps d'accueillir Gomez de Kikwit. Gomez, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à toute la radio et bonjour aux auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Merci pour m'avoir associé à ce sujet. Monsieur Jody, je m'en vais vous dire que nos autorités, ce sont des oiseaux migrateurs. C'est-à-dire qu'ils viennent pendant la bonne saison et disparaissent pendant la mauvaise. Et aussi, ils sont des égoïstes. Je vais m'expliciter.
Oui.
Par exemple, ils doivent comprendre que là où ils sont pour l'intérêt de la nation. Ils sont en train de gérer la res publica. Ils ne peuvent pas être indifférents à ceux qui ont participé à leur élévation. Par exemple, le peuple, pendant les élections, ils venaient vers nous et votez-moi, je ferai ceci, je ferai cela. Et maintenant qu'ils sont élus, ils se trouvent dans un poste d'élévation, ils oublient le peuple ou la population qui a fait qu'ils puissent être à ce niveau-là. C'est pourquoi je dis, ce sont des oiseaux migrateurs. Ils viennent pendant la bonne saison et disparaissent pendant la mauvaise.
Alors, quelle est la solution, Gomez?
La solution, monsieur, je dis, c'est pour demander à nos autorités qu'ils ne puissent pas travailler en cachette et ils ne peuvent pas éviter la population qui leur a élu. Je vais un peu me joindre au professeur qui venait de dire tout à l'heure que ça dépend des habitudes. Parce que quand on était, par exemple, sous-élevé, on mangeait dans la maison en cachette. Et quand on devient autorité, ce sont ces habitudes-là qui vont continuer. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, il y a de ceux qui sont ouverts à tout le monde. D'un autre, il y a de ceux qui éteignent leur téléphone. Mais même par rapport à ce
vous voulez dire que certains deviennent carrément, Gomez, vous voulez dire que certains deviennent carrément des orgueilleux?
Oui, effectivement, ils deviennent orgueilleux, ils deviennent égoïstes, ils ne veulent plus penser à la population qui les a élevés. Il n'y a pas raison de dire qu'ils peuvent être pendant la réunion, mais ça, c'est question de disposer son temps. Si on est en pleine réunion et qu'un ami appelle ou un frère appelle quelque part, c'est question de laisser le téléphone. Après, vous le rappelez pour dire que non, quand vous m'avez appelé, j'ai été un peu occupé. Et maintenant, quelle est votre préoccupation? Ils ne peuvent pas penser à l'argent. Même cet argent-là, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de la population. Si un peuple qui souffre leur demande l'argent, ils ne peuvent pas dire qu'on nous demande l'argent. La raison n'est pas celle-là. Ils sont des égoïstes. Ils sont des oiseaux migrateurs. Ils doivent changer ces comportements-là.
Merci, Gomez. On va donner la parole. D'accord. D'accord. On va donner la parole à Derrick Nkunda de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est votre préoccupation par rapport à ce thème?
En fait, oui, moi, c'est une expérience. J'ai un ami, il est devenu une autorité.
Oui.
Maintenant, il ne cherche pas à me rencontrer. La raison qu'il donne, il dit non. Moi, je commencerai à avouer aux gens comment est-ce qu'on entrait dans les Malewa et puis on allait à l'université à pied, ils n'avaient même pas les souliers. Je ne sais pas, les raisons qu'ils donnent là, ce sont des raisons qui sont correctes.
Il ne veut pas que Derrick vienne dévoiler son passé.
Oui, oui. Deuxièmement, il y a un autre aussi qui conditionne la rencontre par les exigences. Il me dit d'abord, tu dois devenir membre de notre église. ou bien commencer à venir dans notre parti politique. Quand on va te découvrir là-bas, maintenant je vais te rencontrer.
Oui.
J'aimerais que l'invité puisse me donner des orientations. Je vais procéder comment? J'accepte ou bien je refuse ces exigences-là? Merci.
Bien. Aimé Innocent, vous êtes à Blukwa, en Ituri. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, quelle est votre préoccupation, Aimé?
Merci. Oui, merci de m'avoir accordé la parole, monsieur le journaliste. À mon avis, à ce sujet ici, en tout cas, c'est très intéressant parce qu'il y a certaines personnes qui deviennent inaccessibles uniquement lorsqu'ils sont au pouvoir. Maintenant, quand vous voyez la relation socio-culturelle que vous étiez en train de mener avec ces personnels-là avant qu'ils accèdent au pouvoir, vous partagez des bons points de vue, il y avait des bonnes relations que vous partagez. Maintenant, quand vous voyez leur participation active lorsqu'ils sont au pouvoir, ils sont irréprochables. Ils sont des personnes, vous avez une suggestion, un point de vue que vous pouvez leur dire. En tout cas, vous avez même peur de les rappeler. Mais je pouvais dire, souhaiter à toutes ces personnes qui accèdent même au pouvoir, même si ils sont au pouvoir, qu'ils n'oublient pas l'ancienne relation qu'ils menaient avec tous ces participants.
Bien, merci Aimé Innocent depuis Blukwa. Bibiche, vous êtes en Mbujimayi, bonjour. Bonjour Bibiche.
Bonjour.
Vous êtes en Mbujimayi, quelle est votre préoccupation par rapport à ce sujet?
Oui, moi je dirais, il y a d'autres personnes qui deviennent inaccessibles par orgueil, d'autres personnes aussi par dérangement, parce que moi j'ai déjà vu un député, donc quelqu'un qui était élu comme député, on l'avait accompagné au dé dans son village natal, là où il était élu.
Oui.
Donc il y avait beaucoup de dérangements, c'est tout le monde qui demandait du n'importe quoi.
Qui demandait quoi?
Les savons.
Les gens demandaient quoi? De l'argent?
Oui, c'était moi les savons, je me suis pas encore lavé, il y a d'autres qui demandaient à manger, c'était vers les soirs, non? Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Il a distribué l'argent, les 2000 francs, 1000 francs, tout l'argent qu'il avait sur lui, c'était terminé. Il était obligé de retirer l'argent dans son compte M-Pesa pour donner toujours aux gens. Donc, il était beaucoup dérangé. Et moi-même, ça m'avait dérangé parce que je me suis dit, moi, devenir député, je ne le ferai jamais dans ma vie. C'est une charge. Et puis, vous voyez la personne comme ça, beaucoup dérangée. Donc, prochainement, il ne peut pas se rendre dans son village natal facilement ou aller à l'aise. Donc, il faut avoir beaucoup d'argent sur lui parce qu'il sera demandé en désordre, vous voyez. Donc, mais les gens qui deviennent accessibles par orgueil, là, moi, non, je les décourage. Mais les gens qui deviennent accessibles, peut-être par dérangement, beaucoup de demandes en désordre, là, ils ont raison.
Bien, merci Bibiche. Depuis Mbujimayi, Jean-Paul Tipama, vous avez suivi les différentes réactions des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Je voudrais bien commencer par dire, comme je l'avais dit, le problème de l'accueil dans des institutions ou par les animateurs des institutions est un kyste. Franchement, il y a aussi le problème de manque de notions ou de l'absence de notions des usages du protocole. Pourquoi? J'ai suivi certaines choses qui m'étranglent un peu l'esprit. Pourquoi? Parce que lorsque on accepte le charge public, on doit aussi intégrer la présence de ce public-là parmi le charge. On ne peut pas parler de charge publique sans comprendre que le public sera toujours avec vous et à vos côtés. Vous n'avez pas de charge pour les animaux ni pour les arbres dans la forêt. Vous les avez pour le public. Donc, moi je pense que si aujourd'hui nos dirigeants s'exemptent d'ouvrir leurs portes au public, c'est par rapport au manque de l'esprit d'ouverture et de simplicité.
Mais donc, Bibiche, depuis Mbujima, il nous a dit certains sont inaccessibles par orgueil, d'autres c'est tout simplement pour éviter les multiples dérangements, demandes d'argent et autres.
Exactement. Parce que ce sont les mêmes dirigeants qui habituent le peuple ou le public à cette aventure-là de trop demander. Ici, nos dirigeants apprennent au public de devenir mendiant, n'est-ce pas? Ce n'est pas le public lui-même qui se transforme en mendiant, mais c'est plutôt le même dirigeant. Regarde un peu sur nos, comment on se comporte. Un député qui se présente là-bas, il donne avec constatation, il donne, il distribue. Mais est-ce que ailleurs vous avez déjà remarqué cela? Plutôt que non. Il n'y a que ici. Il n'y a que ici.
Alors, Gomez de Kikwit a traité ces personnes d'oiseaux migrateurs. Ils ne reviennent qu'à la bonne saison pour chercher les voix et quand elles sont élues, c'est fini. Ils sont égoïstes et ils deviennent indifférents.
Mais justement, ils profitent de l'indifférence parce qu'un peuple indifférent ne peut pas comprendre certaines choses. Vous comprenez? Donc, ces gens-là, ils profitent de notre malheur, de notre souffrance pour encore nous malmener. Donc, si le peuple pouvait dire, écoutez, aujourd'hui, j'ai été floué par celui que j'ai élu, celui qui est devenu ministre, celui qui est devenu sénateur, eh bien, prochainement...
Jean-Paul Tipama, on a suivi certains auditeurs déplorer le fait que dire que certaines autorités sont mal entourées. Par exemple, cette autorité vous fixe rendez-vous à 11h, vous avez parlé au téléphone, et peut-être qu'elle n'a pas signalé à son service des protocoles, vous arrivez là-bas, on vous dit, monsieur, madame, est-ce c'est sur rendez-vous, on regarde, le nom n'est pas sur la liste, bon, on vous fait marcher, et puis vous êtes déçu. À qui la faute à ce moment-là?
Bon, écoutez, il trouve toujours, le dirigeant trouve toujours une échappatoire. Et apprendre à recevoir le gens au bureau ou le visiteur, c'est toute une culture. C'est toute une culture. Ça doit partir de chez soi, dans sa famille, pour s'étendre, jusque pour se transporter jusqu'au lieu du travail. N'est-ce pas?
Oui.
Alors, si il est des gens qui ne savent pas recevoir le gens en audience au jour, heures qu'ils ont même prévu ou fixé, ça devient un manque de considération à l'égard du public.
Voilà, à ce sujet, on va suivre le témoignage d'un auditeur anonyme qui a voulu nous parler de ce qu'elle a vécu avec un de ses amis qui est devenu autorité. Suivez.
Oui, mais justement, on aura tout vu, je vous en prie, allez-y.
Je partage avec vous ce matin cette expérience vécue avec un ami. Je suis moi-même à la tête d'un département d'une société de la place. En effet, cet ami que je connais depuis plusieurs années, il y a quelques années, il a été promu à la tête d'une société de la place. Et un matin, je le rencontre en ville. Il me donne un rendez-vous au jour et à l'heure de sa convenance. Rencontre prévue à son bureau. Le matin du jour du rendez-vous, il m'appellera pour modifier l'heure du rendez-vous. Donc il renvoie à une heure ultérieure vers la fin de la journée. Je me rendis donc à l'heure qu'il m'avait annoncée à son bureau. À mon grand étonnement, à la réception, on m'annonce qu'il vient de sortir il y a à peine quelques minutes et qu'il venait de partir. J'ai donc essayé de le rappeler par téléphone entre 7 et 8 fois et l'appel est resté sans suite. J'ai essayé d'accompagner ses appels de quelques SMS espérant que peut-être qu'il serait pris dans une réunion et qu'il me dirait quelque chose par SMS. Et ces SMS également sont restés sans réponse. Donc au bout de 45 minutes, une heure au parking, j'ai décidé d'abandonner et de me retirer. Avant de partir, je me suis empressé de vérifier quand même dans mon répertoire, dans mon registre des SMS, me disant certainement qu'il m'avait envoyé un message pour me dire que le rendez-vous était annulé et qu'il avait peut-être été appelé pris par une réunion prioritaire. Je n'ai trouvé aucun message. Et je vivrai encore cette expérience une deuxième fois où il me fixera encore un rendez-vous, mais cette fois-là, Quelques jours avant, j'ai pris la peine de le rappeler pour m'assurer que cette fois-là, le rendez-vous était ferme. De nouveau, plusieurs de mes appels sont restés sans réponse et jusqu'à ce jour, plus de 6 mois plus tard, il n'a plus jamais rappelé, pas de message, pas d'excuses et rien du tout. Donc mon étonnement, c'est de voir ce changement relationnel dès que cet ami de longue date a pris ses fonctions, ce changement progressif où il arrivait à communiquer un petit peu avant et jusqu'à une difficulté totale à pouvoir même le joindre, même pour des amitiés, des salutations, des nouvelles de la famille, totalement difficile. Monsieur est devenu totalement injoignable, donc c'est l'étonnement et bon, on se résigne à attendre, à voir le jour où il pensera aux amis, il appellera.
Voilà, le jour où il pensera aux amis, il appellera. Jean-Paul Tupam a une réaction par rapport à ces témoignages.
En tout cas, c'est piquant, hein? C'est piquant et je suis malheureux d'apprendre de telles choses. Lorsque moi je suis dans le domaine, j'en ai l'expérience et que on fasse déplacer quelqu'un, vous savez, appeler même quelqu'un au téléphone, c'est pas gratuit, on dépense toujours l'argent. Mais je crois que le bon sens aurait voulu que ce monsieur en question puisse répondre à son ami. Ça ne coûte rien, rien du tout. Mais, vous savez, les dirigeants congolais ont tout ce qu'il faut pour malmener le peuple ou le public. Franchement, il n'y a aucun qui fait la particularité ou la différence. Tout le monde se comporte comme tout le monde.
Jean-Paul Tupam, on a suivi qu'il y a certains qui sont accessibles, qui sont bien, qui sont restés simples et qui sont accessibles au public, mais d'autres ont changé de comportement. Mais vous, en tant qu'expert dans les domaines du protocole, comment est-ce que le service autour de l'autorité devrait être organisé pour bien gérer les appels, les demandes d'audience, les rendez-vous et autres? L'agenda du chef.
Oui, vous savez, le mal que nous avons ici, c'est le fait de recourir à sa propre tribu, dans son propre parti politique. Eh bien, de cette manière-là, nous tournerons toujours en rond. Ça n'ira pas. Toute gestion avec le membre de la famille. Ah mais non. Moi, je pense qu'en ce moment-là, c'est papa a dit, maman a dit... Mon neveu a dit, il a fait, et l'impunité va s'installer. Vous savez pourquoi l'impunité existe dans ce pays? C'est parce que les gens croient que quand je travaille sous ordre de mon parent, je ne serai jamais sanctionné en cas de faute.
Alors comment est-ce que le service devrait... Oui, c'est vrai, certains travaillent avec des cousins, cousines et amis, mais comment bien organiser le protocole pour bien gérer le public afin d'éviter toutes ces frustrations-là?
Mais justement, il faut former les agents du protocole. Il faut les former. Même s'ils ne sont pas formés depuis leur enfance, mais une fois qu'ils sont au bureau, il faut lancer, par exemple, recourir à ceux qui connaissent bien les domaines, n'est-ce pas? Parce que dans ces domaines aussi, laissez-moi vous dire, je dis qu'il y a raté des documents, des ouvrages. Et même s'il y en avait, mais dans notre pays, nous n'avons pas certainement la culture de lecture. Croyez-vous que quelqu'un peut passer comme ça, voir un ouvrage sur le protocole, il va acheter? C'est très rare. C'est très rare, à moins que l'on puisse faire intervenir. Même le pasteur, je vous dis, même le pasteur, il ne connaît pas que, le protocole est biblique. Le protocole, c'est biblique. Lorsqu'on vous parle de l'hospitalité, il faut accueillir les gens. Parce qu'au travers des gens que vous accueillez, peut-être que vous aurez à accueillir les anges.
Oui, Derrick nous a dit tout à l'heure depuis Kinshasa qu'il a son ami qui est devenu qui a eu le pouvoir quelque part et son ami ne veut plus le rencontrer parce que Derrick risque de dévoiler tous les secrets, son passé, comment est-ce qu'il trimait, il marchait à pied pour aller à l'université et comment il a souffert.
Oui, mais si lui il croit que son passé se cache. Mais ce même passé demeure en lui. Lui-même, il est toujours le révélateur de son propre passé. Hein? Il ne peut pas l'oublier. Ça, c'est un complexe inutile. Il faut toujours s'ouvrir au monde. Mmh. Et peut-être que on peut trouver d'autres issues. Hein? Par exemple, celui qui vous a connu hier comme tel, comme marchant à pied. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu ce que vous êtes. Mais il peut vous être encore utile.
Voilà. Et Derrick a ajouté, il dit, son ami lui avait dit, Carmen, si tu veux être à mes côtés, tu dois devenir peut-être membre de notre église ou de notre loge mystique ou de faire partie de notre parti politique. Alors, si tu n'es pas là-bas, dans son cercle, alors c'est difficile de te recevoir.
Oui, croyez-vous que ce pays va connaître un développement avec de tels agissements? Ce sont des agissements nuisibles. Des gens comme ça ne peuvent jamais accéder dans les hautes fonctions. Ça, je vous l'ai dit. Je suis désolé de vous le dire. Hein? Ça, c'est quelle culture-là? Est-ce que vous prenez quelqu'un parce qu'il est membre de votre église, vous le placez à vos côtés? Quel rendement vous pouvez en attendre? Hein? S'il est menuisier, vous le prenez parce qu'il est membre de votre directoire ou de votre parti. Mais vous allez le placer où? Et vous allez en faire quel usage? Non, soyons quand même corrects lorsque nous voulons que ce pays puisse connaître...
Quelle est la solution, Jean-Paul Tshipama? Quelle solution vous préconisez pour résoudre ce problème?
Oui, moi je pense qu'il faut, il faudra arriver à organiser le service du protocole en formant ces agents-là. Mais vous êtes là, vous avez tous les contacts, de qui faut-il contacter pour ce faire, hein? On peut organiser une semaine de formation, hein? On peut organiser une semaine de formation, deux semaines, pour que les gens puissent, les agents du protocole puissent accéder à ces notions-là. Moi, moi-même, j'étais dernièrement dans un cabinet où je trouve une fille, hein, une hôtesse d'accueil. Et quand j'ai essayé de parler avec elle, elle me dira ouvertement que franchement, apportez-moi votre ouvrage, j'en ai besoin parce que je suis ici, je n'ai jamais vu quelque chose sur le protocole.
D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a, vous voulez dire par là qu'il y a un grand besoin de formation. Les gens doivent se former pour éviter de frustrer le public. Jean-Paul Tshipama, expert dans le domaine du protocole, merci et à la prochaine.
Très bien, merci Jody, je vous en prie.
On va se retrouver tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission Capi. En attendant, okay, quelques notes de musique.
Très bien, je peux attendre?
Together, and you know that I'm right.
RDC, certaines personnes changent de comportement dès qu'elles ont une parcelle de pouvoir. Le PDG, patron, boss, honorable ministre ou excellence ne décroche plus son téléphone. C'est l'assistant qui décroche souvent. Il donne l'impression d'être trop occupé et n'a plus de temps pour ses amis. Pourquoi ces changements de comportement et attitudes chez certains citoyens congolais? On en parle ce jeudi 30 avril à 10h dans Okapi Service. Pour participer, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net ou réagissez sur la page Facebook de votre émission. À bientôt. Voilà, nous y sommes déjà au Capi Service New Look, deuxième partie. Pourquoi certaines personnes deviennent inaccessibles quand ils ont des pouvoirs? Joël, vous êtes à Magui, Maître Edmond nous appelle de Mbandaka et Serge de Kamina. Joël de Magui, bonjour.
Joël de Magui, bonjour. Oui, bonjour aujourd'hui et bonjour à notre invité du jour.
Alors veuillez réduire le volume de votre radio, Joël, et vous pouvez poser la question.
Ah, c'est fait déjà. Ok, merci de m'avoir accordé la parole sur ce sujet du jour. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un phénomène en tout cas, nous sommes en train de vivre, même ici à Magui, nous avons des chefs qui ne veulent pas recevoir les gens, même si vous êtes venus avec des choses importantes. Et ça fait quand même mal au cœur, parce qu'ils sont là pour quand même des services du peuple. Alors, moi, je vois, en tout cas ici, au Congo surtout, ou carrément en Afrique, les chefs ont ces genres de comportements. Juste, premièrement, les autres croient qu'en faisant des choses comme ça, c'est une sécurité pour eux, parce que c'est des temps, les gens peuvent faire des coups d'état, on peut vous empoisonner, on peut venir vous tirer dans votre bureau. Alors, c'est pourquoi les autres chefs, dans ces prétextes, et quoi alors, n'est pas recevoir les gens au bureau, ce n'est pas aussi le cas. Et tu dis que le coefficient aujourd'hui ignore que dans le cas, il était S. Alors, moi, je demanderais à nos chefs, en tout cas, de pouvoir être simple, enfin, en tout cas, de bien rendre service à ses frères, à leurs frères, à leurs soeurs. Parce que quand nous partons chez les blancs reçoivent les gens sans problème. Si maintenant, ils prennent pour les raisons de sécurité, il faudrait qu'ils puissent venir à leur garde de pouvoir bien demander les gens qui veulent les voir, en fait, de les faire entrer. Sinon, en tout cas, ils n'ont pas de raison valable de pouvoir, en tout cas, refuser les faire recevoir. Je ne sais pas une chose, mais parce que les blancs ne font pas juste comme ça. Nous cherchons ça à devenir comme les blancs, mais dans ces comportements-là, le Congo ne pourra pas, en tout cas, devenir un bon pays. Alors,
merci Joël. D'accord. D'accord, merci. On va donner la parole à Maître Edmond de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs de la Fréquence de la Paix.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Maître Edmond?
Merci beaucoup pour la parole. J'ai suivi les différents intervenants sur la thématique du jour. À mon humble avis, je crois que, tel qu'on a dit, d'abord, c'est une question d'éducation, question de discipline, question de reconnaissance. Et puis, parmi les intervenants, en tout cas, lorsqu'ils ont défilé, ils se sont apparemment acquillés qu'aux autorités. Mais moi, je voudrais dire que ces problèmes que nous constatons dans la société, c'est un problème qu'on les constate même au niveau des autorités religieuses. Là, je voulais dire le pasteur.
Oui.
Le pasteur. Parce que il y a certains pasteurs, par exemple, pour recevoir les brebis, en tout cas, une brebis doit faire plus de 2 heures, 3 heures, 4 heures en train de défiler et dans la ligne et rester par le protocole des fois où... Dans la salle d'attente, voilà. Donc c'est un problème qui concerne presque toutes les autorités. Et moi, je crois que... Et puis, la population doit également savoir que il y a certaines personnes qui fonctionnent sous les règles déontologiques, par exemple. Je vais donner les cas de nous qui sommes avocats, par exemple. Moi, j'ai une déontologie. Par exemple, il m'est interdit de recevoir les gens à la maison, chez moi à la maison, les clients par exemple.
Oui.
Donc, si vous avez besoin de moi, En tout cas, je vais vous dire de passer au cabinet. Et quand vous arrivez au cabinet, en tout cas, la déontologie m'enseigne qu'il faut un rendez-vous et qu'on sort. Voilà. Et à la maison, peut-être, on peut recevoir certaines personnes de la famille.
Maître
voilà.
Edmond, il y a des gens qui viennent aussi sans rendez-vous, sans avoir pris rendez-vous, ils veulent voir l'autorité. Et si on les reçoit pas, ils se plaignent.
Oui, oui, tout à fait. Ce sont des imprévus. Ça ne manque pas. Il y a certaines personnes qui arrivent. Voilà pourquoi, là, j'ai rejoint maintenant les autres intervenants. C'est question maintenant du protocole. Le protocole doit être vigilant parce qu'il y a certains cas qui sont urgents où, même s'il n'y a pas rendez-vous, vous devez quand même recevoir la personne, l'écouter, et puis peut-être c'est vous qui allez trouver une solution. Donc c'est un problème vraiment que les autorités ou certaines personnes qui ont une parcelle de responsabilité doivent également éviter. Et puis, comme on l'a dit, pour les autorités publiques, on ne sait pas. Aujourd'hui, tel est devenu gouverneur, député, il est devenu ministre. Demain, ça peut être le tour d'une autre personne. Donc, c'est une question d'éducation. Et généralement, ce sont les personnes qui proviennent des familles pauvres. Quand ils deviennent, entre guillemets, riches ou ils occupent une certaine responsabilité, oui, ils commencent à faire ce que mes amis ont appelé de l'orgueil. Alors que chez les Blancs et ailleurs, ce n'est pas comme ça. On sait qu'on est discipliné. Il y a un temps pour le travail, un temps également pour recevoir les amis, la famille, ainsi que d'autres personnes. Et puis ces problèmes, on les constate dans, même au sein du service. Je suis telle autorité pour recevoir celui qui est le subalterne, ça pose des problèmes. Donc vous pouvez faire vous êtes dans une même institution, mais vous faites 2, 3, 4 semaines, vous n'êtes pas reçu par les chefs. Donc c'est un problème que les autorités ainsi que les personnes qui sont élevées en dignité doivent quand même penser ainsi, essayer un peu de changer les mentalités ou les comportements.
Merci Maître Edmond de Mbandaka. On va donner la parole à Serge de Kamina. Bonjour.
Bonjour Jobi, bonjour à tous les milliers auditeurs de la radio Capi qui nous écoutent à ce net moment.
Quelle est votre préoccupation, Serge?
Oui, moi je voulais seulement paraphraser ce qu'ils ont dit. Je suis en train de vivre ce qui nous est passé ici à Kamina. Quand on a décidé, par exemple, le gouverneur de la Sordan, Lengue, qu'on a rencontré ici, il fallait voir comment toute la population a marché pour parler aux députés, il fallait revoir leurs décisions là. Mais les députés n'ont pas voulu entendre la population qui avait donné le mandat à ces arguments-là des députés. Et quand on les appelait peut-être au téléphone, ils ne voulaient même pas décrocher. On a passé au conseil, ils ne voudraient pas. Alors que, au moment où je vous parle, je pense même que le chef de l'État doit beaucoup s'étaler et retourner bel et bien se mêler à ses fonctions avant que le pire arrive. Ces mêmes députés étaient élus par la population. Aujourd'hui, on a abandonné la population à son triste sort. Il y a des retournements sur presque tous les plans là. Rien n'est subi. Je voulais contredire le professeur là qui avait parlé que non, tout le monde doit converger vers les chefs. Non, les chefs doivent écouter la population, ils ne doivent pas être partiels. Ce qui se fait même dans certains services, on lui dit le chef du personnel, il se prend au top, il est irréprochable, il peut suspendre les gens comme il veut. Voilà vraiment ce qui est en train d'engueuler la population davantage.
Merci Serge. Merci Serge de Kamina. D'accord, on va donner la parole au chef des travaux, Bob Dénard de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi et Daniel.
On vous écoute, monsieur le chef des travaux.
Je voulais partager cette thématique en deux volets.
Oui.
Le premier volet, c'est le visiteur. Le visiteur. Et le second volet, ce sont les visités, si on peut l'appeler comme tel.
Oui.
Dans le volet, quand vous comprendrez là que certains comportements de visiteurs dérangent aussi les hôtes. Pourquoi? Parce que à un certain moment, ils manifestent plus de la mendicité. Hein, de la mendicité. Je voudrais parler ici dans le contexte, par exemple, des accueils. Vous verrez tout le monde avec des pancartes. De n'importe quelle pancarte qui deviennent de n'importe où. À un certain moment, des pancartes montées de toutes fesses. Ça aussi, à un certain moment, ça peut déranger. Et il y a aussi la surcharge dans les demandes, dans le champ des demandes des membres des familles, les membres des partis ou les membres de n'importe quelle association.
Les demandes d'argent.
Demandes de tout et de rien. Même, par exemple, il venait d'engrosser une femme là d'une manière un peu illégale, il vient demander l'aide, afin qu'on puisse l'assister à l'accouchement, par exemple. Donc, il y a trop de demandes. Et aussi, par exemple, il y a aussi des appels à contre-temps, même sans programmation, à tout moment on appelle, c'est cette raison-là que certaines autorités changent d'attitude. Mais dans les secondes volées, j'ai pensé qu'eux aussi, les autorités, entre guillemets, comme si on peut l'appeler comme tel,
oui,
ils deviennent sincèrement orgueillés. Ils deviennent vraiment orgueillés. Hein? En face de certains amis, ils vous voient comme s'ils ne vous voient pas. Tantôt, vous les saluez, ils ne savent pas vous répondre. Et ça aussi, c'est un comportement vraiment indigne. J'avais aussi constaté que, à un certain moment, ils vous font traîner inutilement. Ils vous appellent et ils vous font asseoir là toute la journée. Et lui est dans le salon avec le pain, tantôt il ne fait rien. Mais au lieu qu'il puisse directement vous répondre par rapport à l'appel, il ne vous répond pas. Ça aussi, j'ai été victime plusieurs fois de ça. On vous appelle, vous êtes assis, à un certain moment, on a des problèmes, on dit que non, je ne pourrai plus répondre à ces appels. Et aussi, ils promettent trop, hein, ils vous promettent, ils disent que bon, après, venez telle. Ils promettent, même le pain, il n'a rien. Et quand vous arrivez là maintenant, ils poussent encore d'autres arguments. C'est ainsi que j'ai été victime, par exemple, un député, il m'appelle là, il m'a appelé, je suis allé vers 18. J'arrive, hein, il m'a dit que, en sortant, après m'avoir distrait avec beaucoup de conversations, il m'a dit que non, il ne fiche que 1000 francs pour les transports. Je me suis indigné, mais 1000 francs pour en faire quoi, et bon. Je suis aussi pour l'argent. 1000 francs. Moi,
merci.
Il me remet 1000 francs.
Oui. Quoi. Voilà, il vous a fait traîner à la fin pour vous remettre 1000 francs des transports. Merci, monsieur Bob Denard. Fortuna, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes expert en protocole d'État. Bonjour.
Bonjour, mon frère.
Alors, dites-nous, par rapport à la question du jour, comment mieux organiser les services des protocoles d'une autorité pour éviter les frustrations et ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui?
Bien, merci beaucoup, cher ami, cher journaliste. J'ai bel et bien suivi les discussions et tous les intervenants. Je ne veux plus que je puisse rentrer dans ce qu'ils ont dit, mais je voudrais aussi insister sur le plan intellectuel, sur le plan de la formation.
Oui.
Il y a un problème au niveau du protocole d'État en ce qui concerne les autorités. Il y a des gens, aujourd'hui, il a grandi, il a étudié, il est promu, mais il n'a pas des notions sur le protocole d'État, et les gens estiment qu'on doit former les autres qui sont dans leur service. Moi, quand je vais dans une formation pour former les gens du protocole d'État, j'insiste à ce que leur chef soit là pour que cette formation puisse élever. Parce que tout dépend. La personne peut être formée, mais son chef n'a pas de ces notions-là. Il se pose un problème d'incompatibilité, de compréhension sur les notions du protocole. Ça, c'est un. Des deux, il faut aussi penser à ce que quand on parle, par exemple, vous avez aujourd'hui, au niveau du chef de l'État, par exemple, le chef de la maison civile du chef de l'État. Il a, entre autres attributions, c'est coordonner tout ce problème dont on est en train de parler ici. Mais il y en a qui pensent qu'ils peuvent passer outre cela et aller parce qu'ils étaient amis au chef, ils peuvent faire du n'importe quoi. C'est aujourd'hui, peut-être, je peux extrapoler pour dire, est-ce qu'il faudrait-il encore qu'on crée chef de la maison politique d'une autorité? Tu vois un peu ça? C'est tout cet amalgame de connaissances sur le plan de partis politiques, de religion, et peut-être on a grandi dans un même quartier, mais on n'a pas ces notions-là du protocole, ça pose problème. C'est pour cela, j'insiste aussi qu'on puisse former les autorités sur le plan protocolaire, qu'ils comprennent ces notions-là, indépendamment de la formation de leurs agents. Ça, c'est un. Des deux, il y a aussi un problème lié à la nature même de la personne. Vous pensez que quand quelqu'un est monté, il y a un auditeur qui a parlé qu'il faut respecter quelqu'un qui est monté en grade. C'est tout à fait normal. Hier, j'étais ton ami du quartier, aujourd'hui, je suis ministre. Tu ne vas plus venir dans mon bureau commencer à m'interpeller sur les épaules non plus. Non, ça ne peut pas se faire.
Oui.
Il y a quand même un certain nombre de comportements qu'il faut observer. Il y a un problème naturel, un problème, bon, entre parenthèses, je m'excuse de le terme, d'éducation que notre entourage doit avoir. Il y a aussi un problème de nos partis politiques, nos religions ici. Ce sont des choses qu'il faut beaucoup plus négliger, privilégier la formation des uns et des autres à ce niveau. Je pense qu'on pourra résoudre tous ces problèmes-là. Le problème est réel, mais il faudrait vraiment que les uns et les autres soient formés au même niveau de standard de compréhension.
Merci Fortuna, expert en protocole d'État depuis Lubumbashi. Nous avons en ligne Henri-Christian Longenja, expert en éducation civique et secrétaire exécutif du collectif 24 qui milite pour le droit d'accès à l'information. Henri-Christian Longenja, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capitale.
Voilà, nous parlons aujourd'hui de certaines personnes qui deviennent des autorités et ne sont plus accessibles. D'après vous, qu'est-ce qui serait à la base de cela?
Oui, bon, moi je pense qu'en suivant même les commentaires des uns et des autres depuis que le service a commencé, et comme le disait même le prof et le sociologue, je pense bien qu'à mon niveau, il y a deux aspects à noter. Il y a l'aspect culturel du chef, où on pense que parce qu'on est devenu chef, et on doit être traité autrement, et on coupe une relation avec les autres. Donc, c'est aussi une mauvaise conception du chef. Le chef est là pour mettre les gens autour de lui et s'ouvrir et les servir. Alors, la deuxième chose, c'est aussi la question culturelle où nous ne sommes pas vraiment préparés à la culture de la redevabilité, à la culture de la transparence, la culture de rendre service. À tel enfin, lorsque quelqu'un accède à une responsabilité, devient député, devient ministre, devient président de la République, directement, toutes les communications qu'il avait, il coupe, tout simplement parce qu'il se dit, bon, qui va me poser des questions, tout ça. Mais je pense bien que si nous mettons en tête la culture de redevabilité de la transparence et qu'on se dit que je suis là pour servir, à ce moment-là, j'estime qu'on ne va pas changer de numéro, on sera accessible parce que les questions qu'on va vous poser, ce sont des questions liées à la gestion de l'État par rapport à vos responsabilités et c'est ça le plus grand problème.
Voilà, Henri-Christian Longenja, on vous retrouve dans quelques instants. Je vous retrouve tout à l'heure. Juste le temps d'écouter la réaction de Madame Laurette Mandala, elle est journaliste, directeur général de Univers TV. Elle nous a donné sa réaction par rapport à ces sujets. Écoutez.
Vous savez, dans notre carrière de journaliste, nous avons eu à connaître des présidents des partis politiques, des analystes politiques qui sont aujourd'hui vice-premier ministre, ministre d'État, ministre simple, vice-ministre, directeur, conseiller principal, directeur général dans une entreprise publique. Mais est-ce que nos relations sont restées les mêmes? Avec les temps, les choses changent. Vous savez, les relations sont toujours mieux lorsque ces personnes sont au plus bas de l'échelle. Lorsque cette personne n'a pas encore reçu la plus haute fonction de sa carrière, elle vous répond toujours positivement. Nous avons des gens qui viennent dans nos rédactions, qui sont à nos côtés, ils circulent, ils répondent à nos invitations, ces personnes qui viennent dans nos matinales. Mais lorsqu'elles passent de l'autre côté, elles oublient la période de la vache maigre. Elles ont du mal à répondre à vos invitations. Lorsque vous les invitez, elles ne viennent plus. Lorsque vous avez besoin de leur opinion, même ne fût-ce qu'un message, vous écrivez un message pour qu'ils vous répondent, pour que cela vous permette d'avoir un subavoir, un élément important pour remplir votre papier, ils ne répondent, et ces personnes ne répondent plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles changent carrément? Est-ce que c'est à cause de leur fonction? Nous ne savons pas. Le journaliste est utilisé généralement lorsque les acteurs politiques sont au plus bas de l'échelle, au plus bas niveau de leur carrière. On utilise des journalistes. Alors là, je dis, ils viennent facilement. Ils viennent facilement dans les rédactions, ils viennent facilement comme invités du journal, ils viennent facilement comme invités dans nos différentes émissions, ils sont là, vous voyez même dans le journal, à la presse écrite, les papiers, on remplit des papiers avec leurs opinions, leurs points de vue. Mais pourquoi changent-ils? Pourquoi deviennent-ils difficiles à joindre au téléphone lorsqu'ils passent de l'autre côté, le côté de la gloire? Pourquoi? Pourquoi deviennent-ils difficiles? Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Mais pourtant, on a besoin de garder les bonnes relations pour nous permettre à nous, journalistes, d'avoir l'information à la source et de diffuser cette information-là à la population. La population a besoin d'avoir la bonne information. Le journaliste, chez nous, est considéré comme mendiant toujours. Lorsqu'un journaliste invite, lorsqu'un journaliste appelle, la réponse est toujours, vous savez, je n'ai pas prévu une enveloppe conséquente pour venir. Ce n'est pas toujours à cause de l'enveloppe, ce n'est pas toujours à cause de l'argent, ce n'est pas toujours à cause de ça que le journaliste vous invite, c'est par le souci d'informer, c'est par le souci d'informer la population. Je veux prendre l'exemple d'un journaliste qui nous a dit, une fois, elle était journaliste reporter à l'Assemblée nationale, elle fréquentait un acteur politique qui était devenu ministre. Alors ce journaliste-là avait besoin d'un élément d'information. L'acteur politique qui est devenu ministre l'invite dans son cabinet. Le ministre dit à la journaliste, madame, venez dans mon cabinet à 8h30, je serai là pour vous donner toutes les informations possibles. La pauvre dame est arrivée au cabinet à 8h30. Elle a été reçue assise à la réception, elle l'a attendu jusqu'aux 15 heures. Le ministre ne l'a pas reçu. Le ministre a oublié tous les services rendus par la pauvre dame et elle est rentrée dans sa rédaction. Une fois, elle m'a dit, Madame Laurette, je préfère chaque fois faire mes faits de société, faire mes reportages avec la population, mes reportages de société, que de travailler pour les acteurs politiques, que de couvrir leurs reportages. Parce qu'à la fin, ils deviennent des ingrats. Ils oublient tout le service que nous les avons rendu. C'est tout ce que je pouvais dire jeudi. Merci.
Merci Laurette Mandala, directeur général de Univers TV. Henri Christian Longenja, vous avez suivi cette réaction. Qu'est-ce que vous pouvez... un commentaire là-dessus?
Bon, les commentaires que je peux faire, c'est que par rapport à l'intervention de Madame Laurette, c'est comme je disais, que c'est cette culture-là de...
Redevabilité.
De redevabilité, parce que les gens n'ont pas cette culture-là. Et voilà pourquoi, même nous, si au niveau du collectif 24, nous sommes en train d'insister... Et que si toute la population devait se mettre derrière nous, voire même Madame Laurette avec Univers TV, tous les journalistes, pour exiger la loi d'accès à l'information, j'estime bien que ne serait-ce qu'au nom de cette loi-là, les autorités seraient redevables et ils vont ouvrir les portes. Parce que ce qui se passe, vous allez chercher, la journaliste va chercher l'information, mais l'autorité a oublié même qu'il avait donné le rendez-vous. Et la pauvre reste toute la journée sans avoir l'information. Mmh. Et ce n'est pas seulement ça, c'est la question des journalistes. Nous échangeons aussi même avec certains conseillers. Vous allez voir un conseiller dans un ministère, il doit préparer une note technique pour son ministre, mais les données, il doit les avoir dans un autre ministère. Et il va dans ce ministère pour avoir des données afin de préparer une note technique pour son ministre. Mais là, il n'a pas accès. Et pourtant, il est conseiller dans un cabinet. Donc, c'est cette question vraiment qui est déplorable et que cette culture-là, on se dit pourquoi, lorsqu'on accède au pouvoir, on prend de telles allures, on oublie qu'on est là pour gérer, c'est pour gouverner et on ne peut pas gouverner en fermant les portes. Lorsque déjà vous changez votre numéro de téléphone, c'est un mauvais signe. Parce que demain, le pouvoir va finir, mais ce numéro officiel-là va partir. Vous allez récupérer votre ancien numéro. Et à ce moment-là, vous allez faire quoi? Recommencer votre répertoire de nouveau. Donc, c'est quelque chose que les autorités, soit ceux qui ont la chance d'accéder au pouvoir, doivent savoir que le pouvoir a un temps, a une limite. Et surtout que dans une démocratie que nous cherchons, nous ne voulons pas des gens qui sont éternels au pouvoir. Nous voulons vraiment des gens qui mettent dans leurs esprits que je suis là pour un temps et pour servir. Et pendant ce temps-là, je dois marquer ma présence. Et là, marquer la présence, c'est être, comme on dit en lingala, mutuyabato. C'est-à-dire être mutuyabato, l'homme des gens, ça suppose qu'on est ouvert et que tout le monde vous dit non, il est accessible, il répond ainsi de suite. Parce que nous testons. Je prends par exemple même les plus hautes autorités, avant qu'ils accèdent au pouvoir, on échangeait, même WhatsApp, vous l'écrivez comme ça, il répond.
Oui.
Mais maintenant, on voyait une information ou une demande sur WhatsApp, vous allez voir qu'il ne lit même pas son WhatsApp.
Est-ce que ce n'est pas à cause des charges, des grandes responsabilités? On a beaucoup de réunions, beaucoup de choses à faire.
Je ne pense pas que ça soit ainsi parce qu'ils prennent quand même des téléphones et qu'ils ne vont pas dire que 24 heures sur 24 heures, ils ne gèrent que les charges de l'État. Ils ont quand même un temps de rester en famille et des fois de prendre même son téléphone avec, où se trouve l'ancien numéro, et voir maintenant qui l'a contacté, c'était quoi, ainsi de suite. Et s'ils ont beaucoup de charges, ils ont des secrétaires particuliers, mais ils n'ont qu'à charger les chargés de communication, voilà si telle question arrive, voici comment orienter, ainsi de suite. Mais s'il y avait aussi un mécanisme efficace, parce qu'on a parlé du protocole tout au long du début de cette émission, mais ce protocole, comme Okawa a évoqué, il faut les former. Mais lorsque vous les formez, il doit y avoir quelqu'un qui est à côté, comme nous disons même au niveau de la proposition de loi que nous sommes en train de se battre pour l'accès à l'information, que chaque institution ait une préposée à l'information, soit un préposé à l'information, justement c'est pour faire aussi ce travail-là. Donc j'estime que se couvrir derrière les charges de l'État, c'est vraiment un échappatoire parce qu'on ne gère pas l'État 24 heures sur 24 heures, on a ne serait-ce qu'une heure ou deux heures où on s'occupe de sa famille et pendant ce moment-là, on peut quand même faire quelque chose. Et même si c'était pour les charges de l'État, lorsque la population vous appelle, c'est ça l'État. Parce que vous êtes là pour travailler justement pour cette population. Mais si vous fermez votre numéro de téléphone, comment vous saurez? Et en plus, même du point de vue sécuritaire. Mais ce sont vos anciens contacts qui peuvent vous aider à vous dire que non, voilà, attention, nous avons suivi, il y a ça, ainsi de suite. Mais vous les fermez les portes, vous prenez maintenant les nouveaux alliés parce que vous êtes avec eux au pouvoir, mais demain, vous allez encore retourner à la cité et ça sera quand même catastrophique.
Bien, on va accueillir Akili qui nous appelle depuis Akili Omari depuis Kindu. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur Jody Kachama.
Quelle est votre question, Akili Omari?
Oui, avant d'intervenir à ce sujet qui est très important, je vais commencer d'abord à dire bonne fête de l'enseignement à tous les acteurs pédagogiques de l'EPC.
D'accord, alors, maintenant, quelle est la question?
Oui, je n'ai pas précisément la question, mais j'ai une observation faite par rapport à ce sujet.
Oui.
Parce que ce thème semble être très important, et surtout dans les milieux professionnels. Parce que nous savons très bien que l'autorité et le pouvoir viennent de Dieu. Parce que la Bible déclare cela, que toute autorité vient de Dieu. Mais néanmoins, nous devons savoir comment gérer maintenant cette autorité, monsieur Jérémy Daniel. Parce que vous allez conclure avec moi que quelqu'un qui était un agent comme tout autre, un individu comme tout autre, mais comme il exerce maintenant une fonction un peu supérieure aux autres, il saluait les gens, il décrochait au téléphone à n'importe quand, mais il va commencer à refuser ou à donner à quelqu'un comme son subalterne. Hein,
son assistant, oui, l'assistant gère les téléphones.
C'est tout ça, c'est tout ça. Et il change directement le comportement. C'est en disant que non, moi je ne suis plus la personne X, je deviens la personne Y. Au moins, il répond au même nom qu'on le connaissait auparavant.
Le nom n'a pas changé.
Oui, le nom n'a pas changé. Et il va commencer à dire que non, je ne veux pas que, en Swahili, on dit si batu bashinizoe, c'est-à-dire, il ne veut pas s'amuser avec les gens. Or, tout ça, il est en train de fuir la charge, c'est-à-dire, il ne veut pas servir les membres de sa famille, surtout la famille élargie.
Surtout avec les demandes d'argent, là.
Oui, les demandes d'argent. Mmh. Au moment où il travaille, c'est pour l'intérêt de tout le monde, parce que demain, ça ne sera plus toi. Il devait être
assez. Oui, merci à qui. Oui.
Après, je voulais conclure par dire ceci.
Oui.
Le monde, à Lingala, on dit Mokileza tour à tour. Mais je demande à l'invité, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ses comportements? Parce que nous qui sommes là, comme je suis inspecteur de l'EPC ici à Kindu, c'est nous-mêmes qui faisons maintenant ces comportements. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut qu'on organise un comité qui sera là pour entrer de former les autorités, les IPP, les provinces et tous les autres là. Merci et bonne journée.
Merci à Akili Omari. Delphine Mumba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, David.
Delphine, quelle est votre question?
Oui, c'est Delphine Tumba Mwendamudi depuis Lubumbashi.
Oui. Oui, Delphine, quelle est votre question par rapport à ces sujets?
Ok, merci pour votre sujet. Moi, je pense que le sujet-là, ça m'intéresse tellement, parce que je suis victime, en Boujoumaï, je suis photographe. Vous comprenez?
Oui, oui.
J'ai pris seulement les photos quelque part, au moment où j'étais en Boujoumaï, et le médecin en question, il m'a dit que non, passez à la maison pour récupérer l'argent. Mais je n'ai pas le temps de passer chez monsieur là. J'ai dit non, il fallait que je passe l'endroit où vous travaillez. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème, ça n'empêche pas. Monsieur David, en arrivant, le monsieur m'a
monsieur
dit
Jody,
que non,
oui.
Arrivé à 12h juste. En arrivant à 12h juste, c'est-à-dire que 11h50, je suis déjà du côté barrière. 12h pile, j'ai toqué, on m'a donné l'autorisation d'entrer au bureau. En entrant, j'ai trouvé seulement une dame. Et la dame là, elle me dit quoi? Il me dit que non. Le médecin en question, il vient de sortir tout de suite. Je me pose la question. J'ai dit non. Lui-même, il m'a dit que non.
Il m'a dit de venir à 12h, oui.
Voilà les appels. Non, il est pris. Bon, monsieur, comprenez. Il a laissé 2000 francs. Prenez les 2000 francs ici pour payer les transports. Il a dit que non. Vous laissez seulement
les photos.
Les enveloppes ici avec les photos. Moi, j'ai dit non. Pourquoi? Et puis, je voudrais encore ajouter encore, le comportement des gens là, ce n'est pas le comportement ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Pourquoi même en Boujumaï, là, il y a un député. Un député, là, en train de sionner dans la commune verte de Bipemba. Le député, en train de sionner là-bas, il y a un type, il a vu le député, il a dit, mais ce député, bonjour, mais député, vous nous avez oublié. Le député dit quoi? Il dit, bon, monsieur, vous voulez que je fasse quoi? Avec une seule carte là, vous voulez que je vienne ici chaque jour pour vous donner à manger, à boire? Vous comprenez?
D'accord.
Le député parle,
oui.
Pas la courtoisie.
Merci.
Ce que je demande
merci.
Aux députés congolais,
oui.
Il faut parler devant l'électeur
avec
la courtoisie, parce que la courtoisie est très capitale. Merci, monsieur David.
Merci, Delphine Ngoy. Vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, c'est Belbiche Ngoy depuis Kolwezi.
Oui, Belbiche, quelle est votre préoccupation?
Voilà, j'aime d'abord la pensée de Jean-Paul Chipama qui dit « Le chef doit faire un bon accueil pour le public ». Et aussi, le professeur Gauthier, qui a parlé la fois passée, il dit que le chef doit savoir comment gérer son public pour ne pas tomber dans les incertitudes que conclut notre camarade soeur d'Embouchma et Bibiche qui a dit que le député s'est paniqué devant le public, il a fait du n'importe quoi. Alors, je pense que cette thématique doit interpeller non seulement la conscience de nos autorités politico-administratives, mais aussi les autorités de la société civile ainsi que des confessions religieuses. À mon humble avis, je trouve que la plupart des gens qui affichent ce genre de comportement sont ceux-là qui ont manque de connaissances et aussi qui proviennent de trop riches. Car ils deviennent bâtards, ils ne veulent plus de ses anciens amis. C'est le comportement que les Congolais doivent éviter. Je qualifie de ce comportement d'arrogance inutile, car on peut changer le statut, le mode de vie, mais pas la personnalité. Prenons le cas d'abord. Je me rappelle qu'il y a un homme américain, le président, qui n'avait pas changé son numéro de téléphone. Et il aimait chaque fois rester à côté de ses amis. Il faisait même ses week-ends passer dans des restaurants plus responsables qui, chez nous aussi, ont détecté. Voilà le sens du raisonnement. Donc, je dois interpeller à tous les Congolais d'avoir d'abord adopté le bon comportement du président américain, mais aussi le président du République centrafricaine.
Merci Ngoy. Merci Ngoy de Kolwezi. D'accord, merci. On va donner la parole à Jean-Pierre de Kikwit. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi, bonjour à la radio Capi.
Voilà, et coucou à tous les Banabois là qui nous écoutent en ce moment. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci beaucoup Monsieur Jordi pour la parole. Oui, le sujet il est à la fois psychologique et social. Monsieur Jordi, vous conviendrez avec moi que savoir vivre commence en famille.
Oui, Jean-Pierre, la communication se détériore. Peut-être, pouvez-vous déplacer un tout petit peu, peut-être ça va s'améliorer.
Oui, allô?
Oui, allez-y, c'est bon maintenant.
Oui, je disais que le savoir-vivre commence en famille.
Mmh.
Et surtout que quand on n'a pas appris comment vivre avec les uns et les autres à partir de la famille, il est quasiment impossible d'en assumer une autre fonction. Et que l'on puisse devenir vraiment une personne accueillante vis-à-vis des autres. Et Monsieur Jordi, vous allez vous rendre compte que quand on devient chef, on doit savoir comment partager les autres. On ne peut pas négliger les amis qu'on a vécu ensemble depuis beaucoup d'années. Et c'est ça le comportement qu'il faut trouver, surtout nous les Congolais. Nous avons ce genre de comportement. Quand on devient chef, on néglige les amis. Alors nous aussi, le public, nous devons savoir comment nous comporter vis-à-vis de nos amis qui sont devenus chefs. Parce que quand une personne déjà est devenue chef, il occupe une autre fonction, il faut quand même qu'il y ait du respect aussi à son égard. Il y en a même qui parlent quand il est à côté de ses amis autres.
Oui, Jean-Pierre, la communication. Jean-Pierre, désolé, la communication n'est pas très très bonne. Désolé de vous couper ainsi. Nous allons retrouver Henri Christian Longenja. Vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. Vous avez la parole.
Oui, effectivement, je pense que merci à tout le monde qui est intervenu, de Kindo, Boujumaï, Kolwezi et Jean-Pierre qui est au niveau de Kikwit. Si je dois ramasser d'une manière générale, c'est d'abord lorsque Jean-Pierre parle des questions, je commence de là où il s'est terminé parce que la communication n'était pas bonne, en disant que quand quelqu'un devient autorité, il faut savoir comment se comporter. Ici, je pense bien que on doit distinguer. La question qu'ils sont en train de poser ici, c'est une question de responsabilité de l'État. Prenons par exemple, je prends lorsque Madame Laurette parlait, c'était vraiment une question professionnelle. Ça n'avait rien à voir avec des relations amicales ou des amis du quartier, ainsi de suite.
Oui.
Mais ici, c'est que vous avez une responsabilité. Vous étiez là, par exemple, je donne un chef du quartier, bourgmestre, votre numéro, les gens connaissaient, ainsi de suite, on vous appelait comme tel. Du coup, vous devenez député, vous devenez ministre, premier ministre, chef de l'État, et du coup, votre numéro est devenu inaccessible. Même vos propres membres du parti ne savent plus vous atteindre, alors qu'ils vous atteignaient dans le cadre purement professionnel. C'est de cela qu'il s'agit. Et j'estime que lorsque vous changez les numéros, mais communiquez du moins les numéros dont vous êtes accessible. Parce que si vous allez, nous avons observé, même dans les sites officiels des institutions, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de la présidence, la primature et la plupart des ministères, quand on vous dit contactez-nous, cliquez là-bas, il n'y a rien, ça ne vous donne aucune ouverture pour contacter des services. Même les numéros qu'on met là, ça ne passe même pas. Vous pouvez appeler, non, le numéro n'est pas attribué. Et c'est ça. Et une chose, lorsque notre collègue inspecteur de Kindu disait « que faire ?» La question, ce n'est pas seulement par rapport aux IPP, par rapport aux provinces, inspecteur général ou le secrétaire général de l'IPC. Ici, c'est question de tout le monde. Et que j'estime que c'est le moment que les Congolais et tout le monde qui nous suit comprennent que ce sont des indices de manque de transparence. Que si quelqu'un prend le pouvoir et qu'il était ouvert aux gens et du coup il devient fermé, c'est déjà un indice.
De manque de transparence.
De manque de transparence et que nous devons faire attention. Alors, comme notre ami de Colouésie disait, non, il faut inviter, prendre l'exemple des présidents américains, tout ça. Même au Congo, les exemples ne sont pas manqués. Je connais quelqu'un, je n'ose pas citer son nom parce que je n'ai pas eu son autorisation. Il fut député, on a travaillé avec lui, toujours dans le cadre du plaidoyer de la loi d'accès à l'information. Du coup, il devient ministre. Et lorsqu'il devient ministre, je ne savais pas, à un certain moment, j'ai dit, bon, j'appelle. Ça sonne une frontale. Bon, j'ai dit, bon, écoutez, ça doit être toujours la même maladie là que nous sommes en train de déplorer.
Oui.
Mais j'étais satisfait et content. Après quelques minutes, je vois, il me rappelle, oh, allons, Henri Christin, j'ai vu l'appel manquer, tout ça. J'ai dit, ah, Excellence, j'ai cru que vous avez changé de ministre. Il dit non, je ne peux pas. Mais après tout, demain, je vais encore rentrer à la cité et puis je changeais. Tu vois, et pour moi, c'est quelqu'un un modèle qui a changé. Et maintenant, il n'est plus ministre. Mais il continue avec son numéro. On échange, on continue. Donc, ça pour dire que les cas pareils ne manquent pas d'exemple. Mais
voilà.
La majorité des cas, c'est que les gens, parce qu'ils savent qu'il y aura des coups, il y aura des détournements, il y aura des dossiers sensibles que les gens vont dire que non, mon cher, là-bas, tu as fait, ce n'était pas comme ça, on ne te connaît pas dans ce sens-là. Alors, pour éviter tous ces conseils, toutes ces demandes, ainsi de suite, des informations, du coup, on change de pratique. Donc, c'est un indice, vraiment un indice, qui montre que celui qui a pris le pouvoir ou qui exerce ses responsabilités n'est pas transparent et qu'on ne peut pas attendre beaucoup de choses de lui. Parce que si quelqu'un est transparent et qu'il est redevable, tout ce qu'il va faire, c'est rester ouvert. Écouter tout le monde. Et attendre. Ce n'est pas tout le monde qui viendrait juste pour vous demander de l'argent. Parce que souvent, on pense que si les téléphones sonnent...
Oui, c'est des demandes d'argent. Henri-Christian Longenja, nous allons suivre cet entretien que nous avons eu avec l'honorable Lambert Mende Omalanga, ministre honoraire de l'information et de la communication. Il a donné son point de vue par rapport à l'inaccessibilité de certaines autorités. Suivez.
J'y vois deux raisons. D'abord, un problème d'éducation personnelle. Vous savez, les gens sont ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été, comment ils ont été formatés dans leur famille au regard des contacts sociaux qu'ils ont avec la communauté en règle générale. Et ensuite, au plan politique, c'est que peut-être ils n'ont pas été très bien préparés aux fonctions publiques qu'ils exercent, puisqu'une personne qui accède à des fonctions publiques se doit de se rendre accessible et disponible. Je pense que c'est une des obligations de la fonction de responsable ou de mandataire public que de rester disponible et accessible à la population au service de laquelle on a été placé.
Certains disent que c'est pour éviter, il y a trop de dérangements, trop de demandes d'argent à gauche, à droite. On laisse les téléphones entre les mains de l'assistant, on est tout le temps en réunion, trop occupé.
Mais rien n'empêche qu'un assistant, il m'arrive même maintenant que je suis au Parlement, souvent de laisser mon téléphone entre les mains de mon assistant, mais de faire le point avec lui sur tous ceux qui ont pu appeler et de savoir trier qui a appelé pour des raisons impératif du service public, je me fais toujours le devoir de rappeler. C'est une obligation, à mon avis, du service public. Je ne peux pas concevoir qu'on vous appelle et que vous ne décrochiez pas le téléphone parce que vous craignez d'être dérangé. Si vous êtes dérangé, il vous appartient de dire à la personne qui vous appelle qu'elle vous dérange et que vous lui demandez de vous excuser et que vous pouvez traiter avec lui de problèmes qui n'ont rien à voir avec la fonction que vous exercez à un autre moment. Je l'ai toujours fait et je m'en suis toujours bien porté. Je ne vois pas quel dommage cela a pu me causer.
Dans certains cabinets, les gens viennent et passent des journées entières sans être reçus par le ministre, par le PDG ou le patron.
C'est une question d'organisation. Il faut savoir sélectionner des collaborateurs qui peuvent organiser cela correctement. Si on y va avec un esprit de népotisme où on prend des gens parce qu'ils sont de votre famille, ou si on y va avec un esprit clientéliste où on engage des collaborateurs parce qu'ils viennent de votre parti ou de votre région, etc., il y a des risques que vous preniez des personnes qui vont compliquer le contact que vous devez avoir avec les citoyens, alors que la position que vous occupez vous oblige à être ouvert, à être disponible et accessible.
Et que diriez-vous à propos de ceux-là qui coupent les ponts avec leurs anciens amis? Ils n'ont plus le temps pour eux parce que le statut a changé.
Petit test d'esprit, je dirais, parce que la roue tourne. Hein, et un jour, finalement, on se voit obligé de rentrer vers ceux que l'on considérait comme moins que rien. Il est important d'avoir de la considération pour tout le monde. Votre chauffeur, votre gardien, l'ancien collègue au collège ou à l'université, je pense qu'un homme public a besoin de se ressourcer auprès de tous ces contacts-là. C'est très important. Donc c'est de l'inconséquence politique de couper les ponts parce qu'on a accédé à une fonction importante, entre guillemets.
Quel conseil vous pouvez prodiguer à ceux-là qui se comportent ainsi?
Je conseille beaucoup d'humilité, beaucoup de disponibilité. Vous savez, dans la Rome antique, les empereurs avaient toujours à côté d'eux un fonctionnaire qui était chargé de dire à l'empereur, souviens-toi, César, tu es un homme. Souviens-toi, tu es un homme. Parce que ça a vite fait de vous monter à la tête. Et si vous n'avez pas la force spirituelle de pouvoir vous rappeler que vous êtes un homme au service d'autres hommes, on peut effectivement facilement intégrer ces comportements qui n'arrangent ni votre réputation d'homme d'État, ni le service que vous devez rendre à la communauté.
Voilà, c'était la réaction de l'honorable Lambert Mende au Malanga, ministre honoraire de l'information et de la communication par rapport au sujet du jour. Pourquoi certaines personnes deviennent inaccessibles quand elles ont le pouvoir? Polydor Tangeli, vous êtes en ligne, vous êtes psychologue. Bonjour. Polydor Tangeli, bonjour.
Bonjour.
Alors, en tant que psychologue, comment vous expliquez ce changement quand la personne n'était pas au pouvoir, elle était simple et accessible, mais quand elle a une parcelle de pouvoir, elle change complètement?
Comme vous savez, le psychologue ne fait pas une profession de jugement. Il fait plutôt une profession qui essaye d'expliquer les pourquoi des comportements.
Oui.
Et les voies de solution pour ces faire. Il faut comprendre ici que lorsque on change de statut,
il y a un effet d'entraînement qu'on appelle la mutation psychologique. La personne sera en face de nouvelles réalités, de nouvelles contraintes, qui, au contact avec lesquelles, avec lui plutôt, ça les change positivement tout comme négativement. C'est un peu comme nos frères qui sont en Europe. Moi, avant d'aller en Occident, j'attendais parler du répondeur. Je pensais qu'ils avaient des téléphones différents de nôtres. Mais simplement en y allant, je me suis rendu compte qu'ils sont trop pris et que le répondeur avait sa raison d'être. C'est pour dire que l'ami qui était le vôtre, qui était enfant, est devenu ministre, il a d'autres réalités qui le changent. Les contraintes financières, les contraintes professionnelles, tout ça, ça change la personne et qu'au départ, il faut une approche compréhensive de la chose. Puisqu'ils ne le font pas par une foi nécessairement, mais par la contre-chose. Par ailleurs, faut-il encourager ce genre de comportement qui émane d'une mutation psychologique ? Non. Et là, il revient de la responsabilité tant de l'individu concerné par cette mutation psychologique de se rendre compte du changement qui est intervenu. Sinon, c'est de l'inconscience. Il doit se rendre compte de ça. Et deuxièmement, du côté de ceux qui sont les hôtes, les personnes qui ont besoin d'accès auprès de l'autorité, de comprendre aussi qu'il est possible qu'un individu fasse une mutation psychologique négative par rapport aux réalités qu'il connaît, que vous ne connaissez pas. Et qu'à ce titre-là, vous avez l'obligation de l'aider à être ce que vous voulez qu'il soit, plutôt que de développer un comportement de répulsion jusqu'à créer une certaine fissure, comme on a parlé du député, ainsi de suite. Mmh. Puisque la personne, avant d'être députée, avait un certain leadership que vous avez lu en lui, que vous avez pensé qu'il fallait accompagner. Mais lorsqu'il subit ce choc de mutations psychologiques, il est de votre devoir de l'assister de manière organisationnelle par un dispositif protocolaire, mais aussi par une assistance sociologique, hein, par rapport à nos réalités culturelles, ainsi de suite, et surtout miser sur son entourage. Donc voilà un peu l'apport d'une lecture psychologique que je peux faire de cette situation, c'est que c'est une réalité à comprendre à toute évidence. Pourquoi ? Puisque lorsqu'on est aux prises avec des nouvelles réalités, ça vous change. Sinon, n'êtes pas naturel. Hein?
D'accord.
On ne peut pas être le même lorsqu'on est très élève d'un individu et lorsqu'on devient son enseignant et qu'on soit le même élève.
Oui, mais vous avez parlé qu'il y a une mutation psychologique qui s'opère, mais elle peut être négative et la personne a besoin d'être assistée. Merci Polydor. On va conclure avec Henri Christian Longenja, expert en éducation civique. Henri Christian, vous avez suivi le ministre honoraire Mende, vous avez suivi Polydor. Quelle est votre réaction?
Oui, bon, effectivement, d'abord par rapport à l'honorable Mende, le ministre honoraire, d'ailleurs, je partage parfaitement ce qu'il venait de dire, parce qu'on a dû travailler aussi avec lui dans le cadre du plaidoyer pour la loi d'accès à l'information. La question d'accessibilité, de disponibilité et d'ouverture d'esprit lorsqu'on accède à des postes de responsabilité, vraiment, elle est importante et que toute autorité, toute personne qui a une portion de responsabilité, je pense bien qu'elle doit se faire accessible. Surtout l'homme politique qui ne se fait pas accessible, il est en train de se torturer, de se faire disparaître à petit feu, parce que par après, nous sommes dans la vague démocratique, il y aura des élections et lui-même va s'éliminer. Donc, il se fait une auto-exclusion, une auto-élimination en prenant ce genre de comportement. Alors, je vais dans ce que Polydor disait, il y a bien sûr cette mutation psychologique ou mutation. Il y a la responsabilité de l'individu lui-même de prendre conscience de cette mutation et d'essayer de faire face par rapport à ces chocs de changement d'État, mais il y a aussi la responsabilité de la société. Mais moi aussi, je pense que par rapport à l'aide sociale qu'il demande, ça dépend aussi de l'état psychologique de la personne qui soit disposée d'accepter cette aide sociale. Parce que lorsqu'ils mettent déjà les barrières, c'est difficile qu'on puisse l'aider. Voilà pourquoi nous-mêmes, au niveau du collectif État, nous disons l'aide est juridique. Et l'aide juridique, aujourd'hui, c'est vraiment que tout le monde se mette derrière la loi d'accès à l'information pour imposer la transparence et la redevabilité. C'est à ce moment-là que dans un état de droit, même si, quel que soit votre choc psychologique de changement, la loi vous oblige d'être ouvert, la loi vous oblige d'être accessible, la loi vous oblige de donner des informations lorsque qui que ce soit vous demande, non pas seulement vos anciens amis, mais tout citoyen, parce que vous assumez les responsabilités de l'État. Je pense qu'à ce moment-là, ça serait une solution. Et si tout le monde devrait s'aligner derrière l'exigence de cette loi-là, ça serait une bonne chose
pour Merci.
Que les choses avancent.
Merci, Henri Christian. Oui. Merci Henri-Christian Longenja. Je rappelle que vous êtes expert en éducation civique et secrétaire exécutif du collectif 24. Merci et à la prochaine.